Vous écoutez France Culture.
Anne-Laure Chouin a signé le journal et elle sera de retour à 9h.
Moi, je dis que quand un journaliste, il n'en sait pas plus que ça, il devrait être autorisé à fermer sa gueule.
Le problème, c'est de se confirmer les sources, de les vérifier. Moi, j'avais un maître, c'était Jacques de Rogy, qui disait « La source unique, c'est la fin des haricots ».
Il faut absolument que le secret des sources soit protégé correctement en France, c'est-à-dire qu'il soit totalement protégé.
Évidemment que nous pouvons être l'objet de manipulations. Évidemment que l'anonymat peut poser problème.
Moi, je ne dis pas que vous avez tort, je dis que j'ai l'impression qu'il vous manque quand même un chouïa de sources. Voilà, c'est ça qui me gêne.
Bienvenue à tous dans les coulisses de l'information. Pour ce dernier numéro de la saison du Secret des sources et pour prendre un peu de recul sur l'actualité, nous allons aborder l'un des défis majeurs auxquels est aujourd'hui confronté le journalisme, celui de la relation souvent déséquilibrée entre l'information et la communication. Nous vous proposons un hors-série, diffusion de l'un des trois débats publics que j'ai eu le plaisir d'animer, enregistré lors des 50 ans de France Culture au Palais de Tokyo à l'automne dernier. Avec cette question un peu provocatrice, dans 50 ans, la communication aura-t-elle tué l'information? Et comme toujours, vos commentaires sont les bienvenus sur franceculture.fr et sur les réseaux sociaux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce troisième débat sur le journalisme et son avenir. Et à cette occasion, on accueille donc ici autour de moi Michel Bétang, qui est vice-président d'Avas Worldwide, auparavant, entre autres choses, directeur de cabinet Xavier Bertrand. Ce n'est pas un détail et ça nous intéressera sûrement dans la discussion. Thierry Tuilier, directeur des rédactions de France Télévisions. Et John Vinocur, pour toujours un regard étranger, c'était le cas lors de nos débats précédents. John Vinocur, donc éditorialiste américain du Herald Tribune. Et on va essayer donc d'explorer ensemble des relations qui sont complexes, multiformes, protéiformes, ambiguës parfois. Certains disent que ce sont des associés rivaux, des relations entre les professionnels de la communication et les professionnels de l'information. Et on va, pour commencer, écouter un tout petit document sonore parce qu'il y a évidemment, au cours des derniers mois en France, il y a eu deux affaires politiques, on va dire, qui ont beaucoup marqué et où on a beaucoup évoqué le rôle des communicants. C'est l'affaire Cahuzac et c'est l'affaire DSK.
Est-ce que c'était une faiblesse? Je crois que c'est plus grave qu'une faiblesse, je crois que c'est une faute morale. Et je n'en suis pas fier.
Voilà, vous avez reconnu, je n'ai pas besoin de nous expliquer qui c'est. Donc Dominique Strauss-Kahn, à son retour des États-Unis lors de sa première interview au journal de TF1 après l'affaire dite du Carlton. Et c'est vrai que dans cette affaire DSK, beaucoup ont vu la main des communicants avant, pendant, après, et qu'on a tendance à voir souvent la main des communicants dans toutes ces affaires politiques de plus en plus. J'ai envie de commencer par une question un peu presque générique, c'est est-ce que l'évolution, puisque c'est ça qui nous intéresse, c'est vers où on va, est-ce que l'évolution ne tend pas vers un rapport, j'allais dire rapport de force, du moins un rapport de plus en plus disproportionné entre les communicants et les journalistes, à l'avantage donc des premiers? Quel est votre sentiment là-dessus? Comment ça évolue? Thierry Tuilier.
Écoutez, bon, ce n'est pas totalement neuf, ce rapport de force entre communicants et journalistes. Est-ce que d'ici 50 ans, ces communicants auront pris le pas définitivement sur les journalistes? Moi, je ne crois pas. Mais je suis très optimiste pour la profession des journalistes. Je vais un peu à contre-courant en général de ce qui se dit. Et moi, je suis plus préoccupé, si vous voulez, de résoudre un paradoxe assez étonnant d'ailleurs, c'est que finalement, les citoyens français sont de mieux en mieux informés, de plus en plus informés, en tout cas quantitativement. Il y a plein de médias, plein d'informations. On est sans doute même mieux informés qu'il y a une quinzaine d'années. Et en même temps, effectivement, le rôle des journalistes est totalement questionné parce que nous avons perdu, nous, journalistes, le statut de producteur, si je vois ce mot-là, unique d'information. Aujourd'hui, des grandes organisations, des entreprises, mais même au-delà, des citoyens produisent de l'information en concurrence directe avec les journalistes. Et donc, à partir du moment où on sort du champ du journalisme pur, effectivement, les risques, entre guillemets, de communication, c'est-à-dire une information qu'on produit pour envoyer un message précis avec une orientation précise, est multiple.
On est frappé, en restant sur le monde de politique dans un premier temps, parce qu'on va évidemment parler du monde économique, mais restons un instant sur le monde politique. C'est vrai qu'on est saisi, par exemple, pour rester sur Havas, hein, Michel Bétain, on est saisi par presque la revendication d'Havas, parfois de présence dans les cabinets ministériels, y compris là dans le gouvernement actuel. Pourquoi cette revendication ?
Bon, c'est pas une revendication, je pense que ça découle de l'histoire de cette entreprise. Qui s'est aussi construite avec l'idée que la communication et la politique faisant partie de la vie de la société, il devait y avoir une sorte de travail collectif, mais Havas a pris la décision d'arrêter de travailler avec les hommes politiques. Ça ne veut pas dire ne pas continuer à travailler avec eux dans des relations totalement claires avec les entreprises. Donc la décision a été prise pour toutes les histoires que vous connaissez récentes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de rebondir sur ce que vient de dire Thierry Tullier. Quand même, je pense que les communicants ne veulent pas prendre la place des journalistes. De même que les journalistes, parfois, ont tendance à vouloir prendre la place des communicants. Il ne vous aura pas échappé que depuis quelques années, il y a une sorte de mode où beaucoup de journalistes vont vers la communication.
Regardez
aujourd'hui Claude Sérillon à l'Élysée, hier Myriam Lévy qui travaillait au Figaro, qui travaillait avec François Fillon, avec exactement. Donc je ne pense pas que les communicants veulent prendre la place des journalistes, et bien au contraire. Moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est sorti du stade d'une sorte de guerre. On est rentré dans une sorte de cohabitation intelligente. D'abord parce qu'il n'y a pas d'un côté les purs et de l'autre côté les manipulateurs. Parce que les communicants travaillent de façon intelligente avec les journalistes, parce que nous apportons aussi de l'information, nous apportons de l'éclairage. On n'est pas uniquement là pour déformer. Évidemment, il y a un débat entre transparence et vérité, chacun faisant pour les uns voulant de la transparence. Et pour nous, nous défendons plutôt la vérité, mais notre vérité, pas la vérité, la transparence totale, puisque chacun a droit de garder une part d'intimité, un individu, une entreprise, comme un homme politique.
Alors, c'est bien parce que vous nous avez tracé là, les principaux axes de la discussion pour leur avenir. Donc, c'est bon, on a quasiment le plan en trois parties. Juste quand même un mot d'abord sur le propos général avec John Vinocur. Quel regard, là, c'est le regard de l'Américain que je sollicite, quel regard vous portez sur l'évolution générale, c'est-à-dire et au regard de la situation aux États-Unis sur ce rapport, j'ai presque envie de dire quantitatif, entre les communicants et les journalistes. Comment ça évolue ?
C'est un regard attristé, d'abord, mais je vois un problème généralisé dans les pays développés, et ça touche à tout le monde qui se considère journaliste, et c'est l'expansion totale du domaine du soi-disant journalisme. Et le grand problème, c'est que le niveau le plus élevé, où il y a une histoire de responsabilité plus ou moins, est dégradé par tout ce qui s'appelle journalisme, mais en bas de l'échelle, où il n'y a aucune déontologie, aucune rigueur, et nous sommes continuellement poussés par questions de rapidité, questions de confirmation de nouvelles, non-confirmation de nouvelles, dans la mauvaise direction. Et je vois comme réponse, je sais que le mot fait peur en France toujours quand on parle de la rigueur, mais il faut une rigueur exceptionnelle de la grande presse pour lutter contre ce qui se passe au bas étage. Et par rigueur, je veux dire une déontologie concernant les sources expliquant bien au lecteur d'où vient une information. Même chose, pensez au journal, à un journal comme Le Figaro. Le Figaro publie toutes les semaines un cahier qui s'appelle Nouvelles de la Russie, etc. Alors si vous lisez attentivement les éditos du Figaro et même certains commentateurs, il y a une tonalité toute neuve dans le journal qui est tout à fait favorable à la Russie, hein, de nos jours. C'est pas croyable, mais il faut que la presse surveille la presse, qu'on dise à haute voix quand il y a des dérapages, et que la presse prend un regard excessivement dur, toujours au niveau de vis-à-vis elle-même.
Alors, on va prendre quelques exemples concrets, hein, quand même, parce que pour faire comprendre notre propos au-delà du propos général, mais peut-être juste une réaction, Thierry Tuilier, là-dessus.
Non, je suis absolument d'accord sur le fait qu'il faille absolument se positionner dans une grande rigueur et avec une forte valeur ajoutée. Et c'est en cela que je disais que je suis assez optimiste, parce que je pense que les journalistes vont être de plus en plus nécessaires dans ce monde où on a des journalistes compétents, qualifiés, qui vont à la source, qui vérifient toutes les origines d'informations, parce qu'on en a maintenant de partout, de bonne et de mauvaise qualité. Mais ce que je vais vous dire, c'est que ce qui est nouveau, et j'en reviens à ce que je disais au départ, c'est que non seulement on peut choisir les médias, les communicants, comme on dit, peuvent choisir les médias, mais désormais, ces moyens de communication produisent leurs propres images, parfois même leurs propres interviews, et j'allais dire comme dans le sport, parce qu'auparavant, c'était réservé au sport, mais maintenant, c'est dans le domaine de la politique, parfois, c'est dans le domaine de l'économie, on vous fournit l'image. Je parlais des meetings de la campagne présidentielle.
Justement, c'est l'exemple que j'allais donner. Parlons-en, par exemple, de ça. Des meetings de la présidentielle. Les grands meetings, ça a commencé en 2007 en France, et là, ça a été plus flagrant pendant la campagne François Hollande, Nicolas Sarkozy, avec ces images qu'on a tous vues à la télévision, des grands meetings. Par exemple, prenons le Bourget avec François Hollande, par exemple. Oui. Bon, ces images n'étaient pas tournées par les chaînes de télévision pour la plupart. C'était des images fournies clé en main par une agence de communication et retransmises, y compris en direct, par les chaînes d'information continue. C'est quand même un peu troublant. C'est-à-dire qu'on restitue des images qui sont des images de communication.
Deux choses.
Parce que le cadrage, c'est celui de la com pour montrer certaines couleurs, pour, etc., pour éviter de montrer que François Hollande ne sait pas bien chanter la Marseillaise, et j'en passe. C'est de la com, c'est plus de l'info.
Ce n'est pas que François Hollande et Nicolas Sarkozy. C'est Jean-Luc Mélenchon, ce sont les Verts, c'est le Front National, c'est l'ensemble des partis politiques du pays.
Télévisions les diffusent, ces images. C'est ça.
Alors, les télévisions diffusent le signal, pour entrer dans les détails, le signal réalisé. Il se trouve que, heureusement, j'ai été patron d'une rédaction de chaîne Info, mais aujourd'hui, je m'occupe des rédactions de France Télévisions. Donc, nous, on ne diffuse pas en direct. Donc, on ne reprend pas les images produites par les agences. Les chaînes Info, elles, les diffusent comme ça parce que c'est, pardon de le dire, pas cher. Et que ça leur permet de faire de l'antenne pendant une heure, deux heures, trois heures, sans débourser un seul euro.
C'est troublant.
C'est troublant, c'est gênant. La parade, si parade il y a, est-elle satisfaisante? Non, elle n'est pas satisfaisante. C'est pour ça d'ailleurs qu'on met des caméras propres à chaque média, parce que, y compris les chaînes info, ont mis leurs propres caméras pour avoir des angles, évidemment, différents du signal réalisé par l'agence. Mais la parade, c'est de... Ce que disait John tout à l'heure, c'est qu'il faut dire dans quelles circonstances ces images ont été tournées. Alors en 2007, par exemple, ça n'a pas été dit dans les médias. Mais en 2012, si vous tendez bien l'oreille, tous les médias ont incrusté l'origine des images et dans les commentaires ont expliqué finalement pourquoi on en était arrivé à ce point-là. Donc je pense que on peut se priver, on peut décider, mais ce serait d'un courage parfois suicidaire de dire jamais on utilise une image produite par d'autres que des journalistes. Et sur ce type d'événement, ça veut dire que donc, vous ne diffusez quasiment pas le meeting. Vous avez quand même des dizaines de milliers de personnes présentes, puis un acte politique fort dans une campagne. Alors peut-être qu'un jour, on se résoudra à le faire, en signal fort, mais pour autant, si vous utilisez ces images, il faut les accompagner, les encadrer, les sourcer et les expliquer. Parce que le commentaire, ce n'est pas seulement des images. Vous avez un commentaire. Et c'est là où le rôle de journaliste est important. Le journaliste, il doit pouvoir mettre en perspective ces images.
Vous savez quand même prononcer un mot important, un adjectif important, c'est cher ou pas cher. Il y a quand même cette question-là, là, derrière. Et on voit bien, et on a du moins cette sensation, qu'on connaît la situation financière et économique de la presse. Elle n'est pas terrible, terrible. Et à côté de ça, on a l'impression que les agences de communication, elles ont plutôt de l'argent. Et que du coup, là aussi, le rapport de force, encore une fois, il n'est quand même pas très, très favorable à l'information et au journalisme. Michel Bétan,
dans là-dessus. Le cas présent, c'est pas des agences de communication qui ont de l'argent, c'est les partis politiques. Je vous rappelle que là... C'est...
Oui, mais ils font appel à un professionnel de la com. Je prenais le Bourget tout à l'heure avec Hollande, c'était l'oncle,
c'est
je
pas
crois,
des agences de communication qui font ça, c'est des agences de production d'images. C'est différent, mais c'est pas grave. Ça s'inscrit dans une stratégie de communication, je vais pas vous démentir là-dessus. C'est volontaire, c'est assumé, ça vient des États-Unis, ça se fait depuis 30 ans aux États-Unis, c'est importé en France depuis deux dernières campagnes présidentielles. Ça ne se fait pas qu'en France et aux États-Unis, ça se fait dans plein de démocraties en Europe aujourd'hui. C'est un fait. La seule chose qui est importante, comme le appelé Thierry, c'est qu'on n'interdit pas aux chaînes d'avoir des caméras. C'est ça l'important. L'important, c'est que effectivement, chacun puisse faire son métier. On ne dicte pas aux journalistes ce qu'il faut dire. On ne dit pas aux journalistes comment il faut commenter les images. Ce n'est juste que de la production d'images, évidemment, qui est léchée, évidemment, qui est choisie. Et encore une fois, le parti politique qui décide de le faire dans le cadre d'une élection, il en assume le coût au bénéfice des chaînes de télévision, parce qu'elles, comme vous l'avez rappelé, on ne peut pas dire aujourd'hui que la presse, les médias et la presse ont une forme olympique au niveau de leurs finances et que quelque part ça leur fait des économies parce qu'une campagne électorale ça coûte aussi cher à un parti politique qu'à une chaîne de télévision à couvrir.
On va prendre un autre exemple d'image clé en main, d'une autre nature, d'une autre provenance. Prenons la guerre au Mali. Il y a eu très peu d'images journalistiques, hein, du moins directement de la ligne de front. En revanche, ont été fournies à partir d'un certain moment des images du service d'information des armées, qui sont des images souvent nocturnes, etc. Enfin, on connaît, hein, avec l'espèce de virtualité du jeu vidéo. Qu'est-ce qu'on fait de ces images-là, Thierry Tuilet ? Comment est-ce qu'on les utilise ? Parce que là aussi, c'est compliqué, vu que nous, on n'en a pas, ou très peu.
Je vous rappelle qu'il y a eu un petit débat entre le CSA et France Télévisions au sujet précisément d'une enquête sur des exactions que nous avons fait en dehors des clous imposés par au reste de la presse, et que nos images qui révélaient des massacres de Maliens avaient été jugées tellement violentes qu'on se serait risqué une forme de complaisance dans cette violence. Donc vous voyez, parfois, c'est pas facile de faire son métier parce que, comme je l'ai dit au CSA, si nous ne pouvons plus faire notre travail d'investigation sur le terrain en dehors des services officiels de l'armée française, pour le coup, ça veut dire que nous sommes donc un relais de communication. Et je pense que là, il y a une régression du domaine de l'information et de l'information vis-à-vis du public. Alors,
et je pense pouvoir dire que la profession est globalement d'accord
avec
ce que vous venez de dire.
Elle a été d'un soutien sans faille et je la remercie parce que le sujet, je vous le dis, n'est pas clos, puisqu'on continue le débat avec le CSA et il faut qu'on rapproche nos positions, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais pour en revenir sur les images de l'armée, de même que pour 2001, 2003, guerre en Irak, les Américains qui avaient créé ce terme d'MBD, c'est-à-dire on incorpore des journalistes, incorporés des journalistes dans des unités combattantes, et donc on leur permet de filmer ce qu'on les autorise à filmer. Moi, je pense que malgré tout, il faut utiliser ces images lorsqu'il y a une information. C'est ça le critère, une information. Mais pour autant, il faut toujours expliquer au public, et de plus en plus, et ça c'est compliqué vis-à-vis des jeunes journalistes, parce qu'ils n'ont pas forcément cette habitude, comment on les a obtenus, quelles sont les limites de l'exercice. Mais se passer des images, par exemple du massif des Iforga, où les commandos français allaient chercher les djihadistes, c'est aussi se priver et d'images et d'une information importante. À charge pour nous, comme pour les meetings, d'encadrer et de mettre en perspective.
Là, il y avait une pierre dans le jardin des journalistes, assez clairement. Enfin, en tout cas, une question de l'exigence sur la pratique des journalistes. Moi, je vais mettre peut-être une pierre dans le jardin des communicants pour prendre encore une fois un autre exemple, parce que les exemples nous éclairent. Sur les affaires, là, par exemple, DSK et Cahuzac, je ne vais pas citer de nom, mais les journalistes qui ont enquêté au premier chef sur, par exemple, l'affaire Cahuzac, disent tous qu'ils ont quand même reçu d'amicales pressions, l'adjectif est un euphémisme, en tout cas des coups de fil qui ressemblaient à des pressions de la part des communicants. C'est quand même des méthodes qui interpellent, non, Michel Bétan ?
Enfin, écoutez, c'est pas une pratique qui est courante. On est plus à faire du décryptage, à expliquer, à apporter de l'information complémentaire, plutôt qu'à dire aujourd'hui, il faut être fou de croire qu'un journaliste détenant une information de cette nature serait empêché de la produire. J'allais dire, je pense que personne aujourd'hui n'arrêtera aucun journaliste dès lors qu'une affaire comme celle-là arrivera sur le marché et il prendra. De façon, c'est simple, si lui ne la prend pas, il y a des millions de journalistes qui vont le prendre. Donc tout ça, c'est complètement illusoire de penser qu'une information comme celle-là pourrait être tenue. Moi, je pense plutôt qu'il y a une discussion sur le contenu de l'information telle qu'elle est sortie ou telle qu'elle est divulguée, plutôt que sur le fait de la réfréner. C'est surtout la façon dont elle va être produite, au sens de donner dans les médias, la télévision ou dans les journaux, qui pose un problème.
Ce qui n'est pas normal, c'est que les journalistes cèdent où est la tentation de céder. Notre boulot, c'est de résister aux pressions. Qu'il y ait des pressions, heureusement qu'il y a des pressions, sinon on ne fait pas ce job. Mais en revanche, on doit pouvoir dire non, là, on n'est pas d'accord. Bien écoutez, vous ne voulez pas venir chez nous parce que vous avez peur qu'on vous pose ces questions. Bien, tant pis, elle est ailleurs, c'est ce qui se passe assez souvent. Eh bien, c'est comme ça, c'est notre rôle. Donc l'indépendance morale et professionnelle, elle se construit à travers la pluralité, la diversité, et je pense qu'elle se construit aussi avec une meilleure formation des journalistes. Je pense que si on revient un instant à la base, nous avons tous à peu près fait les mêmes écoles. Il y a un manque de diversité dans notre métier. Et forcément, la plupart des journalistes, pas tous bien sûr, mais beaucoup de journalistes, et notamment des responsables, ont côtoyé des hommes politiques, enfin des jeunes, des étudiants devenus aujourd'hui des hommes politiques de premier plan. Et je pense que finalement l'étroitesse de cette entre guillemets élite n'aide pas évidemment à l'indépendance du jugement. Et je pense que plus on s'ouvrira sur l'ensemble des secteurs de la société française, plus on sortira des canons habituels de la formation des journalistes, et peut-être plus on aura cette indépendance et plus on construira cette indépendance.
Le regard de l'Américain là-dessus, John Fletcher.
Bon, je n'ai pas une spécialité française, mais c'est une maladie qui arrive à être décédée toujours, souvent en France. Le livre de Gisbert, un gars que je connais bien, j'aime bien, commence avec la phrase « Je suis un journaliste connivant ».
Et j'adore. J'aime.
Il y avait pendant la période Sarkozy des livres de journalistes qui étaient en quelque sorte des confessions à quel point ils étaient, ils se baignaient dans ces connivences, et Sarko était un maître, le génie, et les journalistes, quand ils étudiaient, ne faisaient que céder, hein. Les maris couchent trois, couchez-vous là, un petit peu. Hein. Comment échapper à ça? Et quand j'étais directeur de la rédaction ou rédacteur en chef au New York Times à New York, pour les infos locales, qui est un grand service, je détestais, j'avais un peu une réaction personnelle à des invitations, soit par le maire, ou soit par le gouverneur, parce qu'ils cherchaient de créer des rapports de connivence qu'il faut rejeter. Et dans une rédaction, ça doit partir du haut. Le patron doit dire à tout le monde, nous n'acceptons pas d'être pris pour des putes, et nous refusons ces informations. On ne les accepte pas. Mais c'est très, très difficile parce que c'est très concurrentiel et il faut avoir des personnalités fortes et honnêtes à la tête de ces rédactions.
Michel Bétan, sur les maris, couchez-vous là.
J'ai la chance, vous l'avez rappelé, d'avoir connu le monde politique, mais je comprends que Gisbert ait écrit cette phrase parce que les politiques, comme les journalistes, ils cherchent la connivence, mais ils la cherchent. Ils la cherchent même très loin parce que les journalistes, la connivence, c'est quoi ? C'est être assuré d'être informé sur tout, tout le temps, en toute confiance. Et pour le politique, c'est quoi ? C'est de montrer qu'on est au cœur d'une situation et que par là même, on peut être protégé. Donc cette connivence, elle est recherchée. Mais j'allais dire, il y a quand même un garde-fou. Vous savez, les hommes politiques redoutent le « je lèche, je lâche, je lynche ». Et cette formule, qu'on appelle les 3 L, ils la redoutent pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, chez tous les journalistes, il reste dans la tête une indépendance qui est plus forte que le reste. Et lorsqu'on doit lâcher quelque chose de très fort, on y va. Et on y va pas uniquement avec une petite cuillère, on y va avec le marteau. La preuve Cahuzac, vous savez, il a été, dit-on, un des principaux informateurs de Mediapart quand il était président de la commission des finances. Vous avez vu comment ils lui ont rendu ? La monnaie de la pièce, elle était assez lourde. Donc autrement dit, il y a toujours ce réflexe, donc il y a connivence, et il faut garder cette indépendance nécessaire, où à un moment donné, quand on doit dire les choses, il faut le dire, ou il faut l'écrire.
Et juste une précision pour rebondir sur votre idée d'indépendance. Par exemple, au niveau de France Télévisions, et pourquoi vous expliquer comment on prend conscience de tout ça, et on a imposé depuis 3 ans le fait que, ça peut-être vous paraît surprenant, on n'accepte plus aucun voyage de presse gratuit. la prise en charge des journalistes, qui était une pratique fréquente. À France Télévisions, c'est un refus systématique, notamment dans le domaine de la culture, le cinéma et autres, où on vous emmène à New York ou à Los Angeles en voyage
pratique très répandue, hein.
Gratuit, on le refuse. Eh bien, c'est ma direction, c'est moi-même qui l'ai imposé, parce que j'estime que c'est le début. Soit le sujet nous intéresse et on paye pour le faire, puisqu'il faut voyager, se transporter, se loger, et c'est la moindre des choses, soit ça ne nous intéresse pas et on n'y va pas. Et en aucun cas, on accepte la gratuité. Et c'est une petite révolution, à tel point d'ailleurs que je vais vous dire, j'ai même des journalistes de mes rédactions qui se sont opposés, parce que je leur enlève une possibilité d'aller voyager et d'aller faire leur travail. Voilà. Donc, vous voyez, il y a quand même une prise de conscience, et je pense qu'on n'est pas isolé à France Télévisions. Je pense qu'il y a d'autres médias qui le font quand même, je l'espère.
Alors, je voudrais qu'on aborde un autre point, parce qu'on se focalise tous spontanément. Hein, je veux dire, c'est un réflexe assez courant sur la communication des hommes politiques et sur les affaires, on va dire. Mais finalement, là où le monde de la communication est très puissant, c'est le monde économique. Et là, on a souvent la sensation, enfin, les journalistes qui travaillent dans le monde économique le disent presque tous, que c'est très difficile pour eux face à cette espèce de... J'allais dire de monstres, en tout cas de géants de communication qui se dressent souvent devant eux dans les grandes entreprises, dans aussi, et c'est un univers que vous connaissez d'ailleurs Michel Bétan, dans le monde par exemple des laboratoires pharmaceutiques. C'est très compliqué pour les journalistes d'obtenir des choses fiables. Allez-y, alors, Michel Bétan, et après John Dinocure face au monde de l'économie.
On parlera des laboratoires.
Parce que c'est quand même là qu'il est le...
On parlera des laboratoires juste après, mais sur la communication des entreprises... Voilà un secteur où je pense que les journalistes sont contents aussi d'avoir des communicants, parce que nous sommes une passerelle entre les entreprises et les journalistes, parce que nous expliquons aux entreprises, souvent, qui ont des problèmes considérables de réputation. Vous savez, aujourd'hui, la réputation pour une entreprise, c'est très important, parce que parfois, ça déclenche des pertes de business assez considérables. Et donc, on leur explique la nécessité de discuter en permanence avec les journalistes. Et notre rôle, il est encore beaucoup plus puissant lorsqu'une entreprise est en crise. Parce que quand une entreprise est en crise, vous connaissez le réflexe, hein, c'est on se ferme, tout le monde est notre ennemi à l'extérieur, et nous, au contraire, on leur explique la nécessité d'expliquer. Vous parlez des laboratoires. Je vais vous prendre un exemple tout récent, Teva. Vous vous souvenez de l'affaire Teva ? Qui s'en souvient d'ailleurs ? Ça fait la une de tous les infos, parce qu'une dame... Il y a eu un signalement dans une pharmacie où une femme a pris des médicaments qui étaient censés être ceux du laboratoire Teva et a eu des problèmes de santé. Alerte générale, rappel des lots, émotions considérables, des unes dans toute la presse. Teva mis au banc de tout, et en fait on se rend compte que c'est la personne qui s'est elle-même trompée et que le laboratoire n'avait commis aucune erreur. Vous imaginez la réaction d'une entreprise comme Teva, le leader mondial des médicaments génériques ? Face à une situation où elle dit « Nous avons vérifié, tout se passe bien, on ne voit pas où ça vient » et tout le monde dit « Ils mentent, ils ne disent pas la vérité ». Comment vous voulez concourir, après une affaire comme celle-là, à conduire les entreprises à communiquer ? Tout autre est la situation de l'entreprise servie avec Mediator. Parce que vous avez bien compris que là, il y avait un autre rouleau compresseur avec d'autres éléments qui rentraient en ligne de mire, j'allais dire, où là, il y avait une volonté, mais qui était assumée, de l'entreprise Servier, de couper toute communication en dehors de communication extrêmement ciblée via un porte-parole de l'entreprise. D'ailleurs, il ne vous aura pas échappé qu'aucune entreprise de communication à cette époque-là ne travaillait pour Servier, puisque la seule qui travaillait est sortie de l'histoire.
Bon. Vous dites ça, mais je crois, juste pour la précision et pour être fidèle à ce que revendique John Vinocur, que vous avez travaillé pas mal pour Sanofi, qui est un concurrent de Servier,
le groupe Havas dans sa globalité.
Oui, je parle d'Havas.
Bien sûr, dans sa globalité.
Non, je veux juste, parce que c'est juste.
Le groupe Havas, bien sûr, mais attendez, mais tous les laboratoires ont des conseils extérieurs dans tous les domaines, et encore heureusement, j'allais dire pour nous, y compris pour elle, bien évidemment on n'est pas en train d'expliquer qu'il faille travailler ou pas. Quand Teva a eu un problème, elle a fait appel à une entreprise de communication spécialiste dans la gestion de crise. Mais quand vous posez la question pourquoi les laboratoires se protègent, c'est parce que je vous ai pris deux exemples extrêmement complexes, où dans un cas, il y a une situation, le médiateur, où on est quasiment certain de ce qui s'est passé, ou dans l'autre, une entreprise dit « mais j'ai l'impression d'avoir respecté toutes les règles et je suis condamné, or je n'y suis pour rien ». Qu'est-ce qui s'est passé après Teva ? Vous avez vu, vous, une double page dans la journaux ? Vous avez vu l'ouverture du 20h de France 2 ou de TF1 pour expliquer que Teva n'était pas responsable ? Rien. 5 lignes. Nous, notre grande hantise aujourd'hui, c'est de voir que la presse écrite est en train de s'éteindre petit à petit. Nous, notre angoisse aujourd'hui, c'est que de moins en moins de journalistes dans les rédactions, regardez le nombre de plans sociaux, Libération, Le Figaro, Le Parisien, Le Monde, ces dernières années, ça n'arrête pas. Regardez le nombre de journalistes que vous avez par secteur d'activité. Moi, il se trouve que je couvre beaucoup le secteur économique et social. Je peux vous dire que ça n'a plus aucune commune mesure. Et notre angoisse, nous, c'est que le journaliste d'aujourd'hui devienne un journaliste en chambre. Il n'a plus le temps, il reste dans son bureau et il fait tout de son bureau, il ne voit plus la réalité.
Alors on va en parler dans un instant parce que ça c'est un thème très intéressant aussi. John Vinocur, quand même votre regard là encore une fois sur votre regard sur les pressions dans le monde économique, c'est-à-dire pas dans le monde politique mais sur le journaliste face à l'omniprésence et à la grande puissance du monde économique et de ses communicants.
Mon expérience à moi en France, j'étais à la tête de la rédaction de l'Herald Tribune pendant 10 ans, et j'étais en même temps vice-président de la société éditrice. Ce qui me donnait une sorte de double conscience sur la prospérité du journal, et deuxième, mais en fait en premier, la qualité du journalisme. Mon argument était toujours, du point de vue journalistique, la qualité du journal international à la Tribune était non pas seulement notre première valeur, mais la seule raison de notre survie et notre capacité de continuer, c'était l'intérêt de paraître de publicité dans un journal de très grande qualité où on avait une certaine distance et un certain retenue, et disons, en même temps, peut-être un certain mépris vis-à-vis, non pas des annonceurs, mais le monde des affaires en général. Et si quelques grands journaux internationaux, Financial Times, Wall Street Journal, International Herald Tribune, qui sera bientôt The International New York Times, c'est que dans des pays individuels, beaucoup de pays en Europe, il y a non pas seulement dans le domaine de la presse économique, les connivences, mais des rapports très incestueux. Hein,
incestueux, hein, c'est ça que vous dites, très incestueux.
Et c'est un fait. L'argent, la prospérité d'un journal est essentiel afin d'avoir du courage vis-à-vis, non pas ses annonceurs, mais du secteur économique en général. Et le problème actuel, le grand problème actuel, ça pèse énormément que les profits, les bénéfices de la presse écrite quotidienne, baissent, et la force de résister, et la force de dire non, et la force même d'attaquer est affaiblie.
Alors on va reprendre quelques questions, mais je voudrais qu'on s'arrête sur ce, parce que c'était en filigrane depuis le début, sur cette question de la vitesse, de cette société de l'accélération, enfin je ne sais pas comment il faut formuler la chose, mais enfin en tout cas d'une société, d'un monde dans lequel il faut aller toujours plus vite. Dans ce rapport journaliste-communicant, à qui ça profite? C'est-à-dire, alors pour le tourner dans un sens, par exemple, est-ce qu'on ne peut pas se dire le journaliste est obligé d'aller de plus en plus vite, c'est un fait, et donc il peut avoir la tentation de consommer le plat tout préparé que va lui servir le communicant, parce qu'il n'a pas le temps, parce qu'on ne lui laisse pas le temps de faire. Thierry Tuilier.
Oui, je pense qu'a priori, là, la vitesse n'est pas favorable aux journalistes, on le sait bien, puisque à la fois, effectivement, on demande aux rédactions d'être réactives, ce qui est normal, c'est le métier, et qu'en même temps, avec la création des sites d'information, je ne parle même pas des chaînes d'information, mais même des sites d'information continus, où vous avez de l'information, comme l'on dit, en temps réel. Dès lors que vous avez une dépêche, une information qui sort, elle se retrouve quasiment sur le fil. Des photos, sans aucune, parfois, vérification. Et par exemple, nous, télé, nous avons vraiment un enjeu important, qui est le droit à l'image. Il arrive qu'on ait des images en notre possession extrêmement difficiles, parce qu'il y a des mineurs, Donc il y a une législation pour protéger les mineurs, parce qu'il y a des personnes qui sont en situation défavorable. Et donc il faut pouvoir se laisser un temps de réflexion pour encadrer, masquer, etc., etc. Protéger les individus et les personnes qui sont sur ces images. Eh bien, toute cette pression du temps est extrêmement difficile parce que effectivement. On nous pousse à aller plus vite. Et donc, évidemment, s'il y a une communication bien ciblée et qu'il y a un objectif derrière une communication bien ciblée, le risque, c'est de tomber dans le piège. Voilà. Donc, ça passe, moi, je vous le dis, par une meilleure formation des journalistes encore, par une plus grande exigence sur le fond. Pour le coup, là, il y a beaucoup de travail à faire parce que je trouve qu'on apprend de moins en moins de choses sur le fond, la culture générale. La connaissance des mécanismes, on parlait de l'économie par exemple, il y a une culture quand même assez insuffisante en matière économique dans ce pays, donc on peut se laisser avoir assez facilement dans l'explication de l'économie ou de la macroéconomie en France, et donc je pense que ça passe par une meilleure formation pour avoir le fond et s'adapter finalement à cette technique qui ne va pas s'arrêter. On le sait tous qu'on va vers de plus en plus de vitesse.
Quand moi j'ai un journaliste économique très savant, vous pensez qu'on peut lui raconter n'importe quoi ? Au bout de 30 secondes, il vous démonte ce que vous lui avez dit. Quand vous avez un journaliste social et que vous avez une grève dans une entreprise et que vous lui racontez des bobards, mais en 10 secondes, il sait que vous l'emmenez dans le mur. Donc ça ne marche pas comme ça. Plus on aura de journalistes spécialisés, bien formés, et moins il y aura de problèmes. Et nous, notre volonté, elle est claire. Nous ne nous pouvons pas nous permettre de mentir. Parce que le mensonge nous conduit à disparaître. Donc,
vous êtes tenté de mentir par omission de temps en temps quand même, non ?
Non, mais je vous ai dit une chose, il y a différence entre transparence et vérité. La transparence, c'est de tout dire et de tout savoir. Mais qui veut tout dire ou tout savoir ? Est-ce que l'État veut tout dire ou tout savoir sur ce qui se passe en Syrie ou ailleurs ? Est-ce que France Télévisions est prêt à tout dire sur ce qui se passe à France Télévisions ? Est-ce que le Figaro, est-ce que nous-mêmes ? Bien sûr que non.
Est-ce que le citoyen lui-même a envie de tout savoir ?
D'abord, le citoyen, il a envie qu'on lui garantisse une partie de sa vie privée, mais c'est valable pour toutes les institutions, entreprises, journaux, télévisions ou particuliers. Donc la différence, elle est entre transparence et vérité. Il faut dire la vérité. Est-ce qu'il faut tout dire ? Je ne le pense pas, parce qu'on n'a pas besoin de tout dire. Est-ce que vous demandez à Coca de vous dire quelle est la formule magique avec laquelle ils produisent leur boisson magique ? Personne.
Surtout pas par pitié.
Mais bien personne. Et pourtant, ça serait la transparence. Eh ben non, la vérité, c'est d'expliquer en quoi le composant est fait, mais pas autre chose.
Thierry Tulier, sur cette question vérité-transparence, parce qu'elle est intéressante quand même.
Oui, non, moi ce que je crois, puisque le thème c'était communiquer et informer, pour moi, informer, c'est questionner un fait. C'est-à-dire que, si vous voulez, quelqu'un qui communique, et il a le droit, et on citait Jean-Marc Ayrault, il a le droit de communiquer comme il l'entend, c'est sa part de vérité. Ce qui n'est pas normal, c'est que le journaliste reproduise tel quel sa part de vérité, sans questionner cette part de vérité, à la fois avec ses limites, ses impasses ou ses points positifs. Ça, c'est le rôle du journaliste. Et moi, je pense que dans les 50 ans à venir, on aura de plus en plus besoin de journalistes bien formés, avec une culture générale profonde, élargie, parce que le monde est encore plus compliqué qu'avant, pour justement questionner ces faits. Et nous tous sommes abreuvés d'informations. C'est pour ça que je disais qu'on est mieux informés au sens quantitatif. Je ne suis pas sûr qu'on soit mieux informés au sens qualitatif. Mais les éditeurs, que ce soit presse écrite, radio ou télé, ne pourront survivre dans ce monde où tout le monde a accès finalement direct à l'information qu'en ajoutant de la valeur ajoutée, qu'en étant exigeant sur le fond, qu'en portant des valeurs aussi. Et l'entreprise de presse, elle doit produire cet ensemble de choses et de valeurs pour pouvoir précisément se différencier de toutes ces informations, les hiérarchiser, les éditer, leur donner un sens, les éclairer, et tout ceci au nom, finalement, d'une valeur. On parlait du service public je suis sur France Culture, et donc nous avons lancé une émission sur France Télévisions dont je suis assez fier, qui s'appelle Cash Investigation, qui est une émission d'investigation économique, et elle embête beaucoup les entreprises. Et je pense que le service public, par exemple, comme sur France Inter ou Radio France, est capable de sortir ce type d'émission parce que précisément on a une part de financement public qui nous permet d'une certaine manière d'avoir une distance avec quelques annonceurs. Pas complète, puisqu'on a aussi une part.
Ici complète, en tout cas, je peux vous assurer.
Pas à France Télé, où il y a encore des annonceurs et de la publicité, chacun le sait. Mais pour autant, on a une part de subventions, de redevances, d'impôts qui est payée par les citoyens, ce qui nous permet de porter ce type d'émission à l'antenne. Et finalement, si vous voulez, le service public a ce rôle à jouer, à mon avis, d'explication et de valeur ajoutée dans le monde de l'information.
Un mot, John Vinocur, sur cette question de la vitesse. On demande aux journalistes d'aller toujours plus vite. Est-ce que de ce point de vue-là, quel est votre sentiment là-dessus ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'effectivement ça met en péril l'information, pour résumer, au profit de la communication ?
Oui, c'est très problématique. Est-ce qu'on peut produire la qualité du New York Times instantanément ? La réponse est sûrement non. Et la deuxième question posée, c'est que si on offre, et ça c'est le problème pour un journal, on offre une nouvelle crue, est-ce qu'on peut faire les recherches suffisantes pour sortir un vrai papier de rédaction dans les 3-4 heures qui suivent ? Donc, à mon époque, s'il y avait quelque chose dans la ville de New York qu'on ne comprenait pas, où on n'avait pas suffisamment les infos nécessaires pour bien informer à notre façon notre public, on attendait un jour ou deux ou trois. Et ce n'était pas une vraie nouvelle avant, parce qu'il fallait qu'on le lise dans le New York Times pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Ça, c'est fini. C'est fini. On produit, donc, comme des chaussettes à bas prix, et puis, on a tendance de ne plus pouvoir trouver les ouvriers et trouver une solution économique pour produire des chaussettes de grande qualité à un prix normal. Compliqué. Et c'est vrai sûrement pour la télévision et la radio. Hein.
Et on a le sentiment que ça ne va pas s'arranger quand même.
Non, mais je pense que le seul moyen de survie des médias, presse écrite, radio ou télé, c'est d'investir dans la qualité, dans la valeur ajoutée. Il y a ces deux phénomènes. Il y a le phénomène du temps réel, du temps continu, et je suis d'accord. C'est-à-dire, là, on n'a pas de recul, et la vitesse nous prend de vitesse. Et l'info circule, mais finalement, c'est valable pour tous les médias. Et les citoyens, ceux qui aiment être informés, le font tous les jours avec leur téléphone ou leur tablette. Ils vont tout de suite appuyer pour voir la photo, l'image ou le texte en trois lignes. Ça existe. Il faut que ces médias soient quand même sur ce type de temps-là. Mais le média 13h, 20h, 12h13, 19h20 ou Laurent Soir 3, on ne peut pas survivre si on ne fait que ça. Il faut bien qu'on apporte de la valeur ajoutée, sinon quel est notre intérêt par rapport aux chaînes info ? Aucune. Or, c'est pour ça qu'on a développé depuis quelques années dans nos chaînes des formats longs, ce qu'on appelle des formats longs à l'intérieur du journal, des journaux d'actualité. Donc des sujets qui font 4, 5, 6 minutes, qui demandent parfois 3, 4 jours de travail. Et ça, c'est un peu notre luxe. Et je pense que c'est un luxe, mais nécessaire. C'est-à-dire que si on l'abandonne demain, c'est terminé. Ces journaux n'auront plus aucun intérêt. Et nos médias n'auront plus aucun intérêt. Voilà. Donc moi, je pense qu'à l'inverse, il faut engager davantage encore et investir davantage encore dans la qualité, à la fois dans le recrutement des journalistes, mais aussi dans la production des enquêtes. Et bien au contraire, je pense que plus il y a d'informations, plus il faut que les médias traditionnels montent d'un cran pour proposer quelque chose de valable qualitativement.
Et c'est vrai aussi que cette société de la vitesse, Michel Bétan, vous faisiez écho d'une certaine façon à ça tout à l'heure en évoquant l'épisode Teva, cette société de la vitesse, elle met aussi les agences de communication dans la difficulté, de fait, puisque, si j'ose dire, la contradiction, elle peut aussi être immédiate, venant de sources multiples et de partout dans l'instant, grâce aux réseaux sociaux. Donc les agences de communication qui se sont beaucoup développées avec la télévision, parce que les hommes politiques en avaient besoin avec l'avènement de la télévision comme média dominant, ces agences de communication, elles sont confrontées à de tout autres défis à l'ère d'Internet et des nouveaux médias.
Qu'il était bon l'ancien temps, lorsqu'il n'y avait que 3 chaînes de télévision, 6 journaux, tout était beaucoup plus calme. Aujourd'hui, en tout cas pour nous, agences de communication, nous avons un problème qui est tridimensionnel, parce que nous avons l'obligation de surveiller tous les médias. Aujourd'hui, n'importe quelle entreprise, souvent nous charge de veiller à vérifier tout ce qui se dit sur Internet. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle chez nous l'e-influence, c'est-à-dire la perception, la façon dont on va communiquer sur le net, ou ce que le net dit sur les hommes politiques ou sur les entreprises, a pris une telle importance. Aujourd'hui, le digital est en train de dépasser, de surpasser la presse écrite et parfois la presse audiovisuelle. Vous vous rendez compte, on a appris il n'y a pas très longtemps que les jeunes consommaient plus la télévision sur l'ordinateur que sur une télévision. Donc, pour nous, évidemment, l'accélération, le nombre de médias surveillés, chaînes, radio, Internet, Twitter, etc., ça nous donne du travail, heureusement, mais ça nous rend la tâche beaucoup plus compliquée parce qu'aujourd'hui, nous ne parlons plus qu'à un journaliste, nous parlons à une pluralité d'acteurs du monde des médias avec lesquels nous sommes obligés, et alors ne parlons même pas des blogueurs qui ont une puissance sur la toile sur des sujets particuliers où ils peuvent déclencher un incendie en 2-3 mouvements et vous n'êtes même pas rendu compte de ce qui se passait. Voilà. Et donc, autrement dit, aujourd'hui, on se rend bien compte que l'information, qu'elle soit donnée sur Twitter, sur Internet, à la télévision ou à la radio, si elle n'a pas un contenu plus que l'information, elle ne sert à rien.
On va conclure. Je vais vous remercier, sauf s'il y a une autre question dans la salle, mais je ne crois pas. Si, ah, il y en a une. Alors, on prend la dernière et après, on conclut. Allez-y, c'est la question bonus, comme dit Thierry Tulier.
Bonjour. Ma question portait sur la formation des journalistes sur lequel vous avez pas mal insisté. Est-ce que vous pourriez détailler un peu le format de la formation en fait ? C'est-à-dire, par exemple, est-ce que vous prenez des spécialistes en économie et vous les formez à devenir des journalistes en interne ?
Nous, au niveau des rédactions de France 2 et de France 3, l'effort que nous faisons à la fois, c'est de recruter des jeunes reporters, de jeunes journalistes, qu'on forme notamment au reportage au sein de l'entreprise, ce qui n'est pas évident. Et ce n'est pas évident d'attirer des journalistes talentueux dans ce domaine, aussi paradoxal que cela puisse paraître, alors que je pense que c'est la vie économique de notre pays est passionnante et, Dieu sait, importante pour nous, pour notre avenir. Et puis, forcément, on va chercher des spécialistes qui ont là un bagage technique, de fond aussi, et qui peuvent apporter une plus-value. Mais ce n'est pas les écoles de journalistes qui vous donnent les clés pour comprendre comment fonctionne une économie. Ce n'est pas le rôle de ces écoles-là.
Mais je pense qu'on peut dire quand même qu'il y a un vrai défi sur l'information économique en particulier aujourd'hui en France.
C'est certain. Il y a d'abord un désintérêt des journalistes, je crois. Les journalistes soit veulent, ça a été mon cas, donc je peux en parler, être dans le domaine international, la politique étrangère, sur les conflits, comprendre un peu comment le monde fonctionne, soit beaucoup aussi aiment la politique, il faut bien le reconnaître, et peu se lancent dans l'économie, alors qu'il y a une forte demande des médias. C'est-à-dire que, par exemple, le service économie de France 2 a été dépouillé sur 10 ans, mais au moins 2 ou 3 fois par Capital de M6, par d'autres médias audiovisuels, parce que les journalistes qui y travaillaient étaient talentueux et qu'il y avait une recherche de compétences spécifiques sur l'économie. Eh bien, c'est un des rares secteurs où il manque de journalistes. Donc voilà, un appel à tous les jeunes étudiants en journalisme. Allez vous spécialiser dans le domaine de l'économie qui est quand même central dans la vie quotidienne des gens aujourd'hui. Et pas seulement la microéconomie, je parle de la macroéconomie, la mondialisation, les pays émergents, des enjeux qui sont absolument formidables à connaître. Donc allez-y et vous verrez, il n'y aura pas de problème d'embauche au sein des entreprises de presse.
La petite annonce est passée, le mot de la fin, Michel Bétan.
Ah non, c'est juste pour dire que quand il n'y a pas de journalistes spécialisés, qu'est-ce qui se passe ? C'est les experts qui prennent le pas. Et ça, c'est pas bien.
Thierry Tuilier, Michel Bétan, John Vinocur, lors de ce débat enregistré au Palais de Tokyo en septembre dernier à l'occasion des 50 ans de France Culture. Dans 50 ans, la communication aura-t-elle tué l'information ? Débat à commenter comme toujours, à réécouter, à télécharger sur le site du Secret des Sources sur franceculture.fr. Merci à Francis Pascal qui était aux manettes ce matin. Un chaleureux merci bien sûr à Mathias Mégy et Vincent Abouchard qui nous ont aidés à préparer ce numéro du Secret et qui nous ont accompagnés depuis 3 ans. Et un grand merci à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité et vos très nombreux courriers et courriels tout au long de l'année. Le Secret des Sources s'interrompt pour l'été mais sera de retour en septembre. À partir de samedi prochain, tous les samedis matins jusqu'à fin août, entre 8h et 9h, vous serez en compagnie de Jean Deloisy pour les regardeurs. Dans quelques minutes sur France Culture, après le journal d'Anne Lorchouin, Alain Finkielkraut dans Réplique accueillera Lionel Jospin et Patrice Guénifet pour questionner l'héritage de Napoléon Bonaparte. Très bon été à tous, prenez soin de vous.
Qu'il était bon l'ancien temps, lorsqu'il n'y avait que 3 chaînes de télévision, 6 journaux, tout était beaucoup plus calme.